Bah super, alors j'aimerais commencer avec trois exemples ce matin, trois personnes. Ces personnes, dans un sens, sont fictives dans la façon d'avoir décrit ces trois personnes, mais les vérités dont parlent ces trois personnes, ce sont des histoires réelles, des personnes de ma propre connaissance. Donc d'abord, première personne, c'est un ami chrétien qui souffre d'un trouble du spectre autiste. Et depuis plusieurs années, les médecins lui conseillent d'éviter des glucides dans son alimentation. Suite à une rencontre l'année dernière avec d'autres chrétiens, il a été encouragé à être délivré du démon qui le guette dans ce domaine. Et donc, selon lui, le démon est exorcisé, je pense qu'on dit ça. Et on lui a dit, une fois la délivrance a eu lieu, « Voilà, plus jamais tu auras ce problème-là. » Et donc, du coup, maintenant, il mange tout ce qui est pain, pâtes, etc. Et cela contre la volonté de ses parents qui sont aussi chrétiens. Ça, c'était un ami chrétien. Alors, une deuxième personne qui aime Dieu, aime les chrétiens, mais qui trouve que les exigences d'une vie chrétienne selon la Bible parfois sont exagérées par rapport à sa vie quotidienne. Sa vie quotidienne, ce n'est pas facile. Il y a les enfants, il y a le boulot, il y a ses passe-temps, il y a des responsabilités envers la famille. Donc oui, bien sûr, il faut croire en Dieu, et bien sûr, il n'est pas contre l'Église en tant que telle. Mais c'est une question quand même d'équilibre, n'est-ce pas? Et en plus, donc, il passe par une période assez difficile, pas mal de souffrances, donc c'est compréhensible qu'il ne fréquente plus l'Église, bon, en tout cas, beaucoup moins ces derniers temps. La troisième personne, c'est un collègue d'un chrétien de l'Église, collègue au travail. Cet homme est aussi sympa. Mais lorsqu'on aborde la question de l'éthique sexuelle selon la Bible, il est farouchement contre une vision, ce qu'il dit, chrétienne traditionnaliste du monde. Car selon lui, n'est-ce pas une évidence que love is love? Même les chrétiens, selon lui, doivent être d'accord. Car selon eux, les chrétiens, Dieu est amour, non? Quel dommage alors que ces mêmes chrétiens se disent contre un amour autre que eux, ils aiment. C'est-à-dire ils sont contre le mariage homosexuel, contre le transgenre. On l'a proposé de venir une fois entendre le message de l'amour de Dieu à l'Église, mais ils rigolaient. Ils disaient que non. Ils ne voyaient aucun besoin d'un Dieu de ce genre-là. Trois cas faux différents, dont un semble être explicitement lié au diable. Mais nous allons voir que c'est surtout les deux autres cas où le diable est actif. Ce premier cas, cet ami avec ses difficultés d'autisme, ben c'est loin d'être certain qu'il s'agit là d'une délivrance authentique de la part de Dieu. Dans le sujet, nous l'avons vu, vous voyez ça, j'espère, sous le livret, sous vos yeux, c'est Satan. On a parlé de Pedro, qui a fait sa demande de membre, et donc Pedro, il sait que pour être membre de notre Église, nous invitons à Pedro, mais à tout membre, à donner son approbation à cette affirmation-ci. Et je cite la confession de foi. Alors, on va laisser le poème passer l'avion. Alors, voici ce que dit la confession de foi. Je crois que Satan a une personnalité. Il est un ange déchu et l'instigateur de la chute je crois à son jugement et à son châtiment éternel. » Cette affirmation, nous sommes en train de voir les différentes affirmations de notre confession de foi, celle-ci décrit la réalité de la personne du diable, un ange déchu qui est actif encore parmi nous. Notre confession de foi parle de son activité lors de la chute, mais on ne dit rien sur son activité aujourd'hui, sur le comment et dans quel but il est actif. Et donc, oui, nous voulons affirmer la réalité du diable selon les Écritures, mais en ce faisant, nous voulons être conscients de son activité encore aujourd'hui et nous voulons également peser son influence devant nous, en avoir peur. Met-il en danger notre foi? Comment combattre le diable? Car c'est une chose de croire qu'il existe, comprendre le dégât qui vient de son œuvre, mais c'est une autre chose d'être engagé dans le combat contre cet ennemi redoutable. Alors nous commençons là où on a fait cette lecture, dans Jean chapitre 8, là où Jésus dit ceci au verset 44. Vous avez, il s'adresse aux Juifs, pour père, il s'adresse aux Juifs qui s'opposent à lui, à Jésus, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. Ben, c'est fort ce que Jésus dit ici. Ses interlocuteurs juifs qui s'opposaient à Jésus, aussi aux paroles de Jésus, se révèlent ainsi être fils non pas d'Abraham, dans la lignée donc du peuple choisi par Dieu, mais plutôt fils de quelqu'un d'autre, fils du diable. Le diable a été meurtrier dès le commencement. À cause de son influence, la chute de l'homme a eu lieu. La mort physique donc de l'homme est une conséquence de l'action du diable. Il a été meurtrier dès le début. Alors, les dirigeants juifs de l'époque cherchent à mettre Jésus à mort. Ils démontrent ainsi à qui ils appartiennent. Au lieu d'être attirés par la vérité, ils le repoussent. Car ainsi fait le diable. Parce que la vérité n'est pas en lui. Il est le père du mensonge. C'est lui qui avait dit à Adam et à Ève dans le jardin, « Si vous mangez de ce fruit, de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, vous ne mourrez pas. » Donc Satan, qui signifie, le mot signifie l'adversaire, est celui qui, par excellence, s'oppose à Dieu. Alors dans le Nouveau Testament, on se sert parfois aussi du mot « diable » qui signifie « diviseur, attaque, celui qui attaque, celui qui calomnie, qui salit. » Ce qui s'est passé, en fait, c'est les traducteurs d'une version grecque de l'Ancien Testament avaient rendu Satan dans l'Ancien Testament par le mot qu'on utilise aujourd'hui pour le diable. Satan, diable, ça revient au même. La Bible ne nous fournit pas de détails très poussés quant à ses origines, car ce qui est important, c'est son influence et non pas ses origines. Mais il y a quand même deux textes du Nouveau Testament qui nous parlent d'une rébellion de la part de certains anges, dont la capitaine ou le capitaine, c'est Satan lui-même. Il est donc un ange déchu, c'est-à-dire il s'est rebellé contre Dieu et a amené avec lui dans sa propagande d'autres anges. Quelqu'un a décrit les anges comme étant les fonctionnaires spirituels de Dieu. Et donc, à un moment déterminé, après la création du monde, avant la chute, Satan est devenu un ange déchu, instigateur, donc par la suite, de la chute. Pourquoi ? Parce qu'il s'oppose farouchement au règne de Dieu, à l'autorité de Dieu, à la vérité qui vient de Dieu. C'est son œuvre qui mène l'homme avec H majuscule à l'aveuglement en ce qui concerne la vérité qui découle de Dieu. Alors, notre premier constat aujourd'hui, c'est tout simple, n'est-ce pas, que Satan s'oppose à Dieu. La chute démontre l'homme qui met en doute la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit, selon ce que Satan disait, le serpent disait dans le jardin. Donc il met en doute la parole de Dieu, il met en doute la bonté de Dieu. Lorsque Dieu dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Dieu n'avait pas dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres, mais Satan transforme ce que Dieu a dit pour présenter Dieu comme étant un rabat-joie. Comme si suivre Dieu, ça va à l'encontre de notre épanouissement. Et il met en doute aussi dans ce récit de la Genèse le jugement de Dieu. Si vous mangez, vous ne mourrez pas. L'homme, dupé par ces mensonges-là, est pris en piège. Adam et Ève, et oui, chacun de leurs descendants, sont tombés. Vous et moi. Car de nature nous dit un autre texte que nous avons vu ce dernier temps, Éphésiens chapitre 2, verset 2, « Vous êtes morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air. » C'est le diable, c'est Satan. De l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Paul ajoute, nous tous aussi, qu'on soit d'arrière-plan juif, d'arrière-plan non-juif, nous étions de leur nombre. Notre conduite était comment ? Dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. C'est l'œuvre du diable, cela. Le prince de la puissance de l'air, il a mis sa marque sur toute personne née depuis Adam. Justement, selon le deuxième texte qu'on a lu, 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4, qui se voit dans sur le livret, Satan nous rend aveugles quant à notre état devant Dieu. Un aveuglement, voyez-vous, qui s'opère au niveau de notre intelligence. L'apôtre Paul dit ici, si notre évangile est encore voilé, c'est-à-dire s'il y a des gens qui ne comprennent pas cet évangile, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde, Satan, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, on reprend maintenant le troisième cas avec lequel nous avons commencé. Cette personne qui rejette la vision chrétienne du monde, qui se croit au-delà du message chrétien, qui trouve le message chrétien démodé, même dangereux selon les Écritures. Une telle personne est sous l'emprise, sans le savoir bien entendu, du diable. Réagir avec du mépris, avec de l'indifférence quant à Jésus-Christ, cela fait preuve d'aveuglement. Un aveuglement opéré par le Dieu de ce monde. Je lisais un article d'un théologien qui s'appelle Don Carson, d'ailleurs je vais recommander l'un de ses livres un peu plus tard, qui disait cette semaine dans un article qu'il n'y a que 12 ans, lors de l'élection de Barack Obama, pour être le candidat démocrate pour la présidentielle aux États-Unis, et Barack Obama et Hillary Clinton, tous les deux qui se postulaient donc pour ce poste, déclaraient que le mariage devait être entre un homme et une femme. Tous les deux étaient clairs là-dessus. Rien que 12 ans plus tard, des mille années de conviction sont renversées et aujourd'hui la loi aux États-Unis reconnaît le mariage gay. Jésus, dorénavant, n'est plus donc amour si nous tenons à ses paroles. Celui qui est l'amour est maintenant rejeté parce qu'il est intolérant. C'est sûrement un exemple, parmi bien d'autres, bien entendu, d'un aveuglement dont Satan est à l'origine. Toute pensée qui propose des solutions ultimes pour les problèmes de l'homme, qu'ils soient dans les domaines du climat, de l'économie, de l'épanouissement de l'homme, toute pensée en dehors de ce que notre Créateur lui-même nous a dit, fait preuve de cet aveuglement, fait preuve d'une intolérance quant à l'homme créé à l'image de ce même Dieu. C'est important que nous reconnaissons cela. Le Satan s'oppose à Dieu. Alors, attends, petite pause. Alors, pouvons-nous donc nous déresponsabiliser pour nos actions, alors, s'il s'agit d'un aveuglement de la part de Satan pour le mal, alors on peut dire que ce n'était pas moi, c'était le diable. Peut-être vous avez de temps à autre entendu ce genre de discours. Non, c'était bel et bien nous, le mal que nous commettons. Éphésiens 2, qui n'est pas sur la feuille, parle des hommes rebelles, les désirs de notre chair. Ça vient de nous, nous sommes impliqués, nous sommes tenus responsables pour nos actes. Mais oui, de façon imperceptible, cette rébellion dont nous faisons preuve, ce choix pour lequel nous sommes tenus responsables devant Dieu, témoigne d'un aveuglement dont le diable est à l'origine. Et c'est pourquoi, pour que l'homme soit délivré de cet aveuglement spirituel, il lui faut une œuvre spirituelle encore plus puissante pour lui ouvrir les yeux. Et c'est bien cela que Dieu opère en nous par l'œuvre de Jésus-Christ. Quelques versets plus tard, dans 2 Corinthiens chapitre 4, nous lisons « En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. » Le moyen par lequel chacun peut retrouver de la vue spirituelle, c'est en venant humblement à Jésus-Christ par la foi. De nouveau ici, c'est Dieu qui opère ce miracle de vue. Mais le moyen que Dieu choisit pour effectuer ce miracle, c'est à travers notre foi que nous plaçons en Jésus-Christ. Nous sommes tenus responsables pour nous tourner vers Christ par la foi. Mais cet acte de nous tourner vers Christ par la foi témoigne de l'œuvre de l'illumination de Dieu par son esprit en nous. Voici ce que dit Jésus, ce que disait Jésus à l'apôtre Paul. On est dans le premier texte supplémentaire en bas sur la troisième page du livret. Selon Acte 26, verset 18, Jésus disait à Paul, « Je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. » Cela est bel et bien l'œuvre de Dieu de faire cela, à laquelle Satan ne peut pas résister. Mais même s'il ne peut pas triompher sur Dieu, ce n'est pas étonnant d'apprendre notre deuxième point, que quand même il s'oppose au plan de Dieu. Évidemment, oui, il s'oppose à Dieu, il s'oppose deuxièmement au plan de Dieu. Car quel est le plan de Dieu? D'appeler un peuple qui lui appartient, un peuple international, de toute race, de toute nation, de toute langue, dont l'Église locale est un reflet léger de cette réalité. Un peuple qui reçoit le pardon de leurs péchés, la part d'héritage d'un nouveau cosmos renouvelé avec la vérité, l'amour, la beauté tout autour. C'est ça ce que nous avons devant nous. Ce peuple a droit à de tels privilèges car ils sont graciés en Jésus-Christ. Ils se rassemblent, nous nous rassemblons grâce à Jésus. Et nous proclamons ensemble la gloire de Jésus-Christ. Satan, il ne veut pas cela. Il s'oppose donc à ce plan que des gens soient attirés à Jésus. Il s'opposait, souvenons-nous, à Jésus lui-même dans les évangiles. Il cherchait que Christ adore Satan plutôt que Dieu. Et aussi dans les évangiles, Marc chapitre 8, peut-être vous vous souvenez de Pierre qui tentait sa chance pour empêcher Jésus de poursuivre un ministère qui menait jusqu'à la croix. Jésus devait mourir, il le disait à Pierre. Mais Pierre l'a pris à part pour lui dire « Non, non, Seigneur, tu te trompes. » Mais Jésus devait lui dire « Derrière moi, Satan. » Parce que Satan s'oppose au plan de Dieu. Que Jésus aille à la croix. Rappelons-nous aussi de la parabole du semeur que Jésus racontait que chaque fois la parole de ce royaume, le royaume de Jésus-Christ, est semée encore aujourd'hui, Marc chapitre 4, verset 15, Satan est là pour enlever ce qui a été semé avant qu'elle puisse se germer. Certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendu, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Donc, lorsque une église est engagée dans la mission de proclamer Jésus-Christ, nous sommes engagés dans une bataille avec le diable. Selon l'apôtre Paul en Éphésiens 6, verset 11, c'est un verset très connu qui est sur le livret. Ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Paul a écrit ça, mais il a connu ça dans son ministère. Parfois, il avait des voyages d'évangélisation, d'encouragement des églises, qu'il n'a pas pu réaliser. 1 Thessaloniciens chapitre 2 parle de deux tentatives de se rendre à Thessalonique, empêchées, dit l'apôtre Paul, par Satan. Acte 13, Paul confronte un magicien, Elymas, car Elymas empêchait un gouverneur de l'île de Paphos d'entendre la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Et Paul lui dit, homme plein de toutes sortes de ruses et de méchancetés, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur? Empêcher quelqu'un d'entendre la bonne nouvelle, c'est l'œuvre du diable. Cela peut être de façon directe, comme c'était le cas avec Elymas, mais également, je pense que nous devons être conscients que ça arrive de façon plus subtile, je dirais même maligne. J'ai assisté récemment à des funérailles d'un homme chrétien. Il y avait un bon nombre de personnes présentes. C'était une belle occasion. Nous étions invités à remercier le Seigneur pour la vie de cet homme, pour sa foi, pour son amour, pour les autres. On projetait des photos. On faisait tout ce qu'on s'attendrait normalement d'une telle cérémonie. On parlait de l'espérance aussi devant nous. Mais vous savez, à aucun moment, malgré la présence de nombreux non-croyants, à aucun moment est-ce que nous avons dit de façon explicite quelle était la source de cette espérance, quelle était la source de notre joie. Rappelons-nous une nouvelle fois Acte 26, verset 18, le premier texte supplémentaire. « Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, quoi ? Le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. » Si quelqu'un a une espérance devant Dieu, ce n'est pas parce qu'il a entamé une belle vie bien réussie. C'est parce que ses péchés sont pardonnés. C'est comme si, lors de ses funérailles, on parlait d'un homme qui n'avait pas besoin de ce pardon. À quel point on célébrait cet homme pour sa vie. Mais vous savez, des funérailles chrétiennes, j'espère que ce soit le cas pour Lisette dans les jours qui viennent, devraient mettre en avant non pas la grandeur de l'homme ou de la femme, mais la grandeur du Dieu en qui nous avons cru. Ce n'est qu'en lui qu'il y a une espérance. Il n'y a pas une espérance laissée à nous-mêmes. Et donc, dans ce sens plus subtil, je dirais, Satan, même dans un contexte chrétien, sème son influence. Il s'oppose au plan de Dieu. Il se réjouit lorsqu'on donne l'impression dans l'Église que Jésus est un atout pour notre vie. Lorsqu'on peint un portrait de l'homme qui ne prend pas en compte son besoin terrible, mon besoin terrible, votre besoin terrible, d'un sauveur. Satan veut empêcher que les pécheurs comme vous et moi se tournent vers Jésus-Christ par la foi pour recevoir le pardon des péchés. Il se réjouit lorsqu'une église chrétienne rejette les doctrines de manière explicite ou implicite que nous sommes en train de décortiquer ces mois-ci de l'été. Lorsqu'une église donne approbation à un comportement que la Bible condamne. Car en ce faisant, l'Église prive la possibilité d'une telle personne à se repentir. Et si on ne se repent pas, il n'y a pas de pardon des péchés. Gagné alors pour Satan. Satan est encore à l'œuvre de ces manières-là. Alors peut-être maintenant un petit mot, si vous permettez, par rapport a une tendance de voir des démons ici et là, à tout endroit, qu'on doit être délivré selon certains courants de l'Église chrétienne des démons. Alors ici, je tâtonne un tout petit peu, mais je ne pense pas que le Nouveau Testament nous encourage à identifier différents démons et ensuite de chercher à être délivré de ces démons. Oui, oui, c'est vrai. Dans le ministère de Jésus, dans le ministère des apôtres de Jésus, de telles délivrances ont lieu. Mais on va prendre un exemple, si vous voulez bien, de cela. Acte chapitre 10, verset 38. C'est aussi le texte, un texte supplémentaire, mais peut-être ce serait utile d'avoir ce sous les yeux parce qu'on va voir deux versets autour aussi. Voici, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Et il dit ceci, « Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth qui allait de lieu, en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable parce que Dieu était avec lui. » Donc les guérisons effectuées par Jésus mettaient en relief l'autorité de Jésus sur le diable. Ils ne servent pas d'exemple pour nous à imiter. C'est une description de ce qui a eu lieu. Ce n'est pas une prescription de ce qui doit avoir lieu aujourd'hui. Mais pourquoi nous disons cela? Car Pierre lui-même, quelques versets plus tard, il donne l'application de cette réalité au verset 38. Verset 42, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Vous voyez ce que Jésus effectue par ses miracles, ses guérisons démoniaques, c'est pour démontrer sa puissance sur le mal, sur le diable, pour que vous et moi, nous soyons attirés vers lui, vers Jésus, pour croire en lui, pour recevoir le pardon de nos péchés, d'être délivrés de la puissance du diable. Alors, moi, je reviens à ce premier cas de cet ami qui dit avoir été délivré du trouble du spectre autiste. Il ne nous est pas promis dans la Bible une telle délivrance. Et ça me rend... Bah, je suis perturbé lorsqu'il dit qu'il va à l'encontre de ce que ses parents, le conseil, de ce qu'on est, son Église, lui dit. Je pense qu'il court le danger de placer Satan dans un endroit autre qu'il le soit. Et donc, il soit aveuglé par conséquence par cela. Et cela me mène au troisième constat. Je sais que le temps commence à passer un tout petit peu. On va accélérer, je pense. Satan s'oppose, cela va de soi, n'est-ce pas, au peuple de Dieu. Il s'oppose au plan de Dieu, mais maintenant donc au peuple de Dieu. Car si le croyant en Christ a été délivré du royaume des ténèbres, de Satan, de ce monde, pour appartenir à Dieu, ce n'est pas pour autant qu'il se trouve à l'abri de l'influence de Satan, de ses tactiques. 1 Pierre 5, ce verset que vous avez, parle de notre adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant à dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable. Et si on parcourt les Écritures, on peut voir de nombreuses façons, des tactiques du diable envers des croyants. Par exemple, Satan essaie de nous décourager à travers la souffrance, le deuil, la solitude. On se souvient, je suppose, de Job et de ses souffrances. C'est Satan qui est accordé par Dieu la permission de mettre Job à l'épreuve de diverses manières accablantes. Il perd ses biens, il perd ses enfants, il perd sa santé. La femme de Job, elle craque, elle conseille Job de maudire Dieu et mourir. Mais Job refuse et il ne pêche pas. Satan tente le croyant de se croire plus important, plus fort qu'il est en réalité. Un nouveau croyant, selon 1 Timothée 3, verset 6, ne doit pas être un ancien de peur qu'aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Cet orgueil peut être aussi à l'œuvre parmi nous, les amis. Selon 1 Corinthiens 7, la tentation, verset 5, la tentation de trouver refuge dans un comportement sexuel en dehors du cadre du mariage pourvu par Dieu est également une tactique employée par Satan. Qu'un couple s'abstient de trop des relations sexuelles sous prétexte de la spiritualité, nous devons prier un peu plus, etc., court le danger de tirer l'une ou l'autre personne à chercher l'épanouissement ailleurs. C'est dangereux, c'est une tactique du diable. On peut aussi citer l'exemple de Actes chapitre 5, où c'est Satan qui remplissait le cœur d'Ananias, le mari d'un couple qui avait menti en faisant croire à l'assemblée qu'ils avaient mis l'ensemble du prix qu'ils ont reçu pour la vente de leur champ à la disposition de l'ensemble de l'Église. Un tel comportement mettait en danger la paix au sein de l'Église, menacer l'unité de l'Église. Satan, il sait cela. Il sait qu'il n'y a rien de pire pour une Église locale de vivre la division. Il est à l'œuvre pour semer la division. Et donc, dans la même d'autres idées, Satan cherche à remuer les blessures, les ressentis négatifs, les petites amertumes au sein du peuple de Dieu. Écoutez ce que disait Paul, de nouveau, dans 2 Corinthiens, chapitre 2, 10 et 11. « Oh, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et si j'ai pardonné quelque chose à quelqu'un, je l'ai fait à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. » Il y a quelqu'un ici dans cette assemblée que vous n'avez pas encore pardonné pour une raison ou une autre. Il y a quelqu'un dans cette assemblée que vous devez trouver pour lui demander pardon. N'hésitez pas, ne freinez pas à faire cela, les amis. Cela doit se faire, car Satan se sert de nous si nous résistons à cette tactique. Laissez le soleil se coucher sur notre colère, Éphésiens 4, 27, c'est de laisser la porte ouverte au diable. Que le pardon donc se pratique parmi nous, que nous cherchons ce pardon auprès des autres. Il y a trop de personnes, les amis, qui changent d'église car il y a eu un différend qui n'a pas été résolu. Autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. C'est à cela, 1 Jean 3, verset 10, que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. Donc voici plusieurs tactiques, n'est-ce pas, du diable. Je repense donc à notre deuxième cas, cet homme qui croit en Dieu, mais trouve qu'on exagère de prendre la Bible à la lettre. Un tel homme est la proie du diable. Il est en danger car en s'éloignant de son Église, il se prive des armes, selon Éphésiens 6, d'en pourvoir le Seigneur, des armes qui tournent autour de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Il ne suffit pas, voyez-vous, de dire que une fois tous les 3-4 ans, il me faut une délivrance en quelque sorte. Non, il faut voir à quel point le diable exerce déjà son influence. Est conscient de l'exhortation de le résister, de me servir donc de la parole de Dieu, la bonne nouvelle proclamée au sein d'une église de Jésus-Christ pour tenir ferme. Alors peut-être à ce stade, nous sommes un peu conscients que le diable est actif, a été actif dans notre parcours chrétien. Mais le pire, vous savez, c'est que Satan nous fait croire que peut-être pour finir, parce que nous ne sommes pas à la hauteur, nous ne sommes que des hypocrites. Nous devons quitter l'Église parce que nous ne sommes pas des chrétiens authentiques. On est là, on prétend connaître Dieu, mais parfois on pêche, en acte, en parole, en pensée. Qui suis-je alors, moi, pour m'approcher une nouvelle fois de Dieu? C'est à juste titre. Donc, Apocalypse 12, verset 10, nous appelons Satan l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Il nous accuse, et ce n'est pas difficile, parce qu'il y a de quoi pour nous accuser. Satan, donc, est là. Il est actif, il rôde, il cherche à dévorer. Mais pour terminer, nous allons nous encourager avec ces trois « mais ». Mais, et ici j'ai inversé les deux premiers. D'abord, il a été vaincu définitivement à la croix. Que dit le verset suivant en Apocalypse 12 à propos de ceux qui sont accusés par Satan? Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Non pas grâce à la force de la propre foi, non, grâce au sang de l'agneau, grâce à la parole de la témoignage. face à des chrétiens qui restent accrochés à la croix, qui proclament la croix, Satan n'a aucun mot à dire. Tu ne peux pas m'accuser, Satan, parce que Christ est mort pour moi. Voilà pourquoi je suis en bonne santé spirituelle devant le Seigneur. Colossiens 2, 15, Jésus-Christ a triomphé des principautés et les pouvoirs. Comment ? Par la croix. À la croix, il a payé le prix pour le péché de l'homme qui nous rend esclaves à la mort, à Satan. Ce prix à la croix a été payé. Christ est mort. La mort donc n'a plus d'emprise sur nous, le croyant. Satan est vaincu. Il le sait. Et donc, il sait également que son pouvoir est limité et il n'échappe pas à la main souveraine de Dieu. Nous n'avons pas affaire, lorsqu'on parle de Satan, aux Jeux olympiques, des puissances spirituelles. Parfois, on pense comme ça. D'un côté du terrain, il y a Satan et ses démons. De l'autre côté, il y a Dieu et ses anges, son Église. Qui va remporter la victoire, là ? Va-t-il jusqu'au shoot-out avec analyse vidéo, comme c'était le cas pour les Belges cet été ? Non. Le diable, oui, il rôde, mais il rôde, lui, sous la main souveraine de Dieu. Son dessein est bien programmé par Dieu. Cela ne signifie pas que Dieu est coupable, alors, pour tout le mal commis par le diable. Non. Dieu est lumière, 1 Jean 1, verset 5. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Mais oui, il est souverain, même au-dessus de Satan. Est-ce que je comprends comment il peut l'être? Non. Mais il est Dieu, et je ne le suis pas. Et donc, je peux lui faire confiance. Et donc, du coup, au lieu de paniquer, d'avoir peur de Satan, je peux l'affronter en sachant que son pouvoir est limité. Pendant un moment, oui, il lui est permis de nous faire du mal, mais ce moment aura bientôt fin, car oui, sa stratégie, bien qu'habile, est vouée à l'échec. Romains 16, verset 20, le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Il dit ça aux chrétiens. Que la grâce donc de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Cela évoque, n'est-ce pas, les promesses suite à la chute, que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. C'est Jésus, ultimement, le descendant de la femme. Mais en tant que son corps, l'Église, les saints, l'Assemblée céleste, nous célébrerons cette victoire lors de la défaite ultime du diable. Sa stratégie, voyez-vous, est vouée à l'échec. Donc, nous n'avons pas besoin d'avoir peur de lui. Nous nous fions une nouvelle fois à notre Dieu et à la puissance de sa main pour nous garder. Si vous voulez, Satan, c'est un peu comme un jeune enfant qui est fatigué, qui doit aller au lit, mais qui n'a pas envie d'aller au lit, qui se fait attraper par sa maman lorsqu'on lui dit qu'il est temps d'aller au lit. Il n'a pas envie de monter dans sa chambre, il râle, il jette ses jouets, mais sa rage n'a aucun effet ultimement sur la destination finale pour cet enfant. La maman le prend dans ses bras pour le mener, quoi qu'il en soit, dans sa chambre. La bataille est terminée. Est-ce pour autant que lorsqu'il est pris dans ses bras, il est mené vers son lit, il arrête de pleurer, de hurler, de bouger dans les bras de sa maman? Non, il continue, même si c'est inutile. Satan, il crie, il hurle, il rôde, mais il est vaincu. Il le sait, nous le savons également. Alors résistons-le, chers amis, que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec nous. Amen.